Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Il y a eu 300 ans, la semaine dernière, mourait François de Salignac de la Motte Fénelon, le grand Fénelon qui a donné son nom à tant de lycées. Franck Ferrand a décidé de célébrer ce tricentenaire. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Je remercie le père Michel Dussard ainsi que Jacques Caudron de Cambrai qui est avec nous en régie d'avoir attiré mon attention sur ce tricentenaire. Fénelon est sans doute le grand oublié de notre histoire littéraire et religieuse. Après avoir littéralement occupé les esprits pendant 2 siècles, il est aujourd'hui plus ou moins passé à la trappe, eh bien cet anniversaire est une belle occasion, me semble-t-il, de lui rendre l'hommage qu'il mérite. Vous allez voir, c'était une personnalité tout à fait remarquable. Et ce n'est sûrement pas mon invité Alexandre Maral qui dira le contraire.
Et puis tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Christine sur l'origine du shampoing.
Eh bien, bonne question. Pour le moment, je vous propose de faire un peu mieux connaissance avec le précepteur du duc de Bourgogne, le petit-fils de Louis XIV, avec l'impérissable auteur de Télémaque.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Notre monde et notre époque ne nous donnent plus tellement d'occasions de côtoyer des êtres d'élite, des personnalités accomplies que l'on puisse laisser filer sans s'y arrêter les grands exemples que le passé nous donne à observer. Monsieur de Fénelon, archevêque de Cambrai, on l'appelait par référence au grand oiseau blanc, le cygne de Cambrai, Fénelon avait atteint, et c'est l'objet de la démarche quiétiste dont il fut le plus parfait représentant, nous en parlerons tout à l'heure, il avait atteint une sorte d'idéal dans la vie qui le portait à une tranquillité de chaque instant et lui faisait regarder tout et tout le monde avec amour. Évidemment, à la cour de Versailles, où ses fonctions de précepteur royal l'avaient amené à frayer, c'était un état d'esprit à peu près incompréhensible. Ce milieu faux, mondain, plein à craquer d'ambition et de mauvaises passions, ne pouvait guère comprendre un homme qui avait déjà de son vivant accompli l'union avec Dieu. Voici, et c'est un peu l'hommage que le vice rend à la vertu, si je puis dire, voici le portrait sensible que le duc de Saint-Simon, courtisan jusqu'au bout des ongles, mais très intelligent, vous le savez, nous livre de Fénelon. Je cite Saint-Simon. « Plus coquet que toutes les femmes, mais en solide et non à misère. Sa passion était de plaire, et il avait autant de soin de captiver les valets que les maîtres, et les plus petites gens que les personnages. Il avait pour cela des talents faits exprès, une douceur, une insinuation des grâces naturelles et qui coulaient de source, un esprit facile, ingénieux, fleuri, agréable, dont il tenait, pour ainsi dire, le robinet pour en verser la qualité et la quantité exactement convenables à chaque chose et à chaque personne. Il se proportionnait et se faisait tout à tous. » Voilà un des plus beaux portraits qu'on puisse imaginer, évidemment, et qui nous donne à sentir quasiment cette personnalité ondoyante, cette personnalité extrêmement aimable de Fénelon. Il arrive à la cour, ce Fénelon, dans une époque où le règne de Louis XIV est, si je puis dire, sur sa deuxième pente. Vous savez, c'est une de mes marottes, j'ai eu l'occasion de vous en parler assez souvent à ce micro, mais il faut bien comprendre qu'il se produit, au début des années 1680, une sorte de basculement du règne. Louis XIV n'est plus le même, en quelque sorte, après la mort de la reine Marie-Thérèse et son remariage morganatique avec Madame de Maintenon, après le décès de Colbert, c'est Louvois qui maintenant règne en maître. La cour s'est fixée à Versailles depuis 1682 et le règne entre dans ce qui sera un long, un immense, un interminable crépuscule. La guerre à l'époque menace sans arrêt. Il y a eu la guerre de Hollande de 1672 à 1678 et nous allons voir ce qu'en pensait Fénelon justement. Puis, à partir de 1688, c'est la guerre de la Ligue d'Augsbourg, le pays est en crise économique et financière, avec les conséquences induites pour les populations, des famines, une épidémie de typhoïde qui semble ne jamais devoir finir, des impôts constamment renouvelés, avec également un certain nombre de crispations dans la société. Et c'est l'époque où les dévots, qui déjà depuis les années 1668-1669 se faisaient entendre à la cour, c'est l'époque où ils atteignent une sorte d'apogée. L'archevêque de Cambrai, parce que ce sera le titre de Fénelon, écrit en 1693 une lettre à Louis XIV. Cette lettre au départ n'était pas destinée à être publiée et elle n'était même surtout pas destinée à être véritablement lue par le roi, mais par une indiscrétion, nous en parlerons tout à l'heure, elle va finir par tomber sous les yeux du monarque. Et dans cette lettre, Fénelon dénonce les mauvais conseillers du roi qui encouragent aux dépenses inutiles, au luxe, aux guerres inutiles, alors que le royaume meurt de faim. À cette période, Fénelon va développer ses idées dans un ouvrage qui est un ouvrage pédagogique, Les aventures de Télémaque. Pourquoi un ouvrage pédagogique? Eh bien parce qu'il est à la cour en tant que précepteur du duc de Bourgogne. Philippe de Bourgogne est le premier des petits-fils de Louis XIV. Il est le fils aîné de Monseigneur le Grand Dauphin. Il était né en 1682. C'est un garçon d'une grande intelligence, assez sensible, on le dit assez difficile également, et son précepteur, Fénelon, va voir dans cet office qu'on lui offre la possibilité d'influer, sinon sur la politique immédiate, au moins sur la politique de celui qui pourrait être le successeur de Louis XIV. Nous savons, nous, qu'en fait, il n'en sera rien. En 1689, donc, quand le roi constitue la maison de ce petit garçon de 7 ans, l'abbé Fénelon, puisqu'à l'époque c'est encore son titre, il a 38 ans, devient le précepteur. C'était un homme grand, maigre, sec, pâle, nous dit Jean-Christian Petit-Fils, dont les yeux pleins de feu et de candeur, admirable reflet de la vivacité de l'âme, éclairaient d'une étrange lueur la douceur presque féminine du visage. Ce choix, à l'époque, à la cour, n'est pas du tout une surprise. C'est même le moins qu'on puisse dire. Fénelon est de bonne famille, il est issu de la noblesse. Les Lamothe Fénelon sont une ancienne famille du Périgord. Son grand-père a été diplomate. Depuis très longtemps, la famille compte de nombreux évêques. Et puis, évidemment, on est dans une très bonne famille catholique. Fénelon a été influencé par les principes de la Compagnie du Saint-Sacrement, qui prône la participation des dévots aux affaires de l'État. Il a été missionnaire dans la Saintonge, supérieur des Nouvelles catholiques de Paris, qui est un institut qui avait été fondé pour instruire dans la foi romaine les jeunes filles venues du protestantisme. Bref, il est un peu, disons-le, il est un peu le prédicateur à la mode. Et puis, il connaît très bien le domaine de l'éducation. Il a fréquenté un petit concile réuni autour de Bossuet et avec La Bruyère notamment, il a beaucoup discuté des problèmes de l'éducation des enfants. On peut donc s'imaginer au moment où Louis XIV le nomme pour être le précepteur de son petit-fils qu'on n'aurait pas pu faire un meilleur choix.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Revenons avec vous Franck Ferrand à la vie de Fénelon.
Fénelon le dit. Le souvenir des choses qu'on a aimées dans l'enfance est encore vif et touchant dans un âge avancé. C'est bien ce qui l'anime dans la mission qui est la sienne d'être le précepteur du duc de Bourgogne, de celui qui pourrait être le futur roi. D'ailleurs, ce choix de Fénelon comme précepteur, je vous l'ai dit, a été particulièrement apprécié. Nous avons une lettre de Madame de Sévigné qui dit « Un sujet du plus rare mérite pour l'esprit, pour le savoir et pour la piété ». Voilà comment elle définit Fénelon. Avec Fénelon et Saint-Simon d'ailleurs, gravite autour du duc de Bourgogne un certain nombre de personnalités qui se disent que leur heure viendra au moment où Louis XIV ne sera plus de ce monde et où son successeur lui-même, parce que entre Louis XIV et le duc de Bourgogne, il y a quand même le grand dauphin, son successeur lui-même ne sera plus de ce monde. On appelle cette petite bande qui fraye autour du duc de Bourgogne, on l'appelle le petit troupeau des saints. Alors, Fénelon va cumuler un certain nombre de charges, puisqu'il est aussi nommé précepteur du duc d'Anjou. Ça, c'est d'une grande importance, parce que le duc d'Anjou, n'oublions pas que c'est celui qui va devenir roi d'Espagne, sous le nom de Philippe V. Il est élu bientôt à l'Académie française, et il devient donc archevêque de Cambrai en 1695. Voilà une carrière fulgurante, à la mesure de l'intelligence du personnage et de sa très grande habileté, car pour peu mondain qu'il soit, M. de Fénelon n'en a pas moins tous les usages du monde. On peut penser, on est même certain, que c'est à cette période qu'il va commencer à écrire les aventures de Télémaque comme une sorte de modèle et d'exercice pour ses pupilles. Et dans cet ouvrage figure un personnage qui lui ressemble beaucoup, c'est Mentor. Vous savez que c'est un terme qui est passé dans le langage courant, bien entendu, mais Mentor, c'est celui qui donne des conseils au jeune Télémaque. Télémaque est le fils d'Ulysse, Ulysse, vous savez, de Pénélope, bien entendu, eh bien Mentor est là pour lui apprendre à gouverner plus tard. Vous avouerez que le parallélisme est évidemment saisissant. Fénelon profite, disons-le, de sa position pour brosser de la monarchie le plus sombre des tableaux. Il dénonce les conseillers flatteurs, il dénonce ces femmes qui jouissent d'une liberté immodeste dans la cour, les termes sont de lui, il dénonce le luxe, le désir de conquête, les bienfaits accordés à de mauvais ministres. Ce que dénonce Fénelon, nous dit Olivier Chaline, c'est un roi qui a cessé d'être vraiment le roi. Ses ministres l'ont exalté aux dépens de la France afin de s'élever eux-mêmes. Il s'est produit une sorte d'usurpation dans la monarchie quand ils se sont mis à gouverner à la place du roi tout en préservant l'apparence de son autorité. Et Fénelon le dit de façon extrêmement claire. Il dit depuis environ 30 ans, dans cette lettre qu'il adresse en tout cas théoriquement au roi et qui va finalement se retrouver sous les yeux du roi, depuis environ 30 ans, vos principaux ministres ont ébranlé et renversé toutes les anciennes maximes de l'État pour faire monter jusqu'au comble votre autorité qui était devenue la leur parce qu'elle était entre leurs mains. On comprend bien ce que dénonce Fénelon, c'est-à-dire le fait pour ses ministres de flatter l'autorité de Louis XIV afin de mieux renforcer la leur. Fénelon, à travers Mentor, va défendre l'image d'un roi simple, soucieux de ses peuples, comme on disait à l'époque. Voilà par exemple ce que dit Mentor à Télémaque. « Le roi ne doit rien avoir au-dessus des autres, excepté ce qui est nécessaire ou pour le soulager dans ses pénibles fonctions ou pour imprimer au peuple le respect de celui qui doit soutenir les lois. Il ne doit point avoir plus de richesse et de plaisir, mais plus de sagesse, de vertu et de gloire que le reste des hommes. Il doit être au dehors le défenseur de la patrie en commandant les armées et au-dedans le juge des peuples pour les rendre bons, sages et heureux. Ce n'est point pour lui-même que les dieux l'ont fait roi, il ne l'est que pour être l'homme des peuples. » On est évidemment dans une sorte de modèle, d'idéal du bon gouvernant, mais on est très loin des mœurs et de la pratique du pouvoir qui était celle de Louis XIV. La politique du bon monarque, nous dit Fénelon, doit être tournée vers le peuple et vous doit veiller à ne jamais sombrer dans l'idolâtrie et le luxe. Et je le cite, « Comme la trop grande autorité empoisonne les rois, le luxe empoisonne toute une nation. On dit que le luxe sert à nourrir les pauvres aux dépens des riches, comme si les pauvres ne pouvaient pas gagner leur vie plus utilement en multipliant les fruits de la terre, sans amollir les riches par des raffinements de volupté. » Cette lutte contre le luxe, très paradoxalement, et qui n'est finalement qu'un des reproches nombreux que Fénelon adresse non seulement à Louis XIV, mais à ses contemporains, on peut dire que cette attaque du luxe sera ce qui lui vaudra le plus grand nombre d'inimitiés, bien entendu. Et si, vers la fin du règne de Louis XIV, Fénelon est devenu un peu l'homme à abattre, le mouton noir, la tête de Turc, c'est aussi et peut-être c'est d'abord parce qu'il s'est attaqué à ce luxe. Alors, à travers le personnage de Mentor, qui lui sert de double, vous l'aurez bien compris dans cet ouvrage des aventures de Télémaque, à travers Mentor, il défend aussi l'image d'un roi pacificateur, alors qu'à l'époque, Louis XIV mène des guerres qui sont considérées de plus en plus mal dans l'ensemble du royaume. Le roi pacifique est juste, modéré et commode à l'égard de ses voisins, fait-il dire à Mentor. Il n'entreprend jamais contre eux aucun dessein qui puisse troubler sa paix. Il est fidèle dans ses alliances. Il retranche le faste, la mollesse et tous les arts qui ne servent qu'à flatter les vices. Mais surtout, nous dit Fénelon, et là il est évidemment dans ses fonctions de pasteur, mais surtout, il est le bon roi, doit apprendre à se méfier de Dieu. Voilà ce qu'on lit dans le 8e livre des aventures de Télémaque. C'est Mentor toujours qui parle. « Respectez, dit-il au jeune Télémaque, respectez ce que les dieux découvrent et n'entreprenez point de découvrir ce qu'ils veulent cacher. Une curiosité téméraire mérite d'être confondue. C'est par une sagesse pleine de bonté que les dieux cachent aux faibles hommes leur destinée dans une nuit impénétrable. Il est utile de prévoir ce qui dépend de nous pour le bien faire, mais il n'est pas moins utile d'ignorer ce qui ne dépend pas de nos soins et ce que les dieux veulent faire de nous. » s'il ne remplit pas ses missions, le peuple va se soulever et va renverser la monarchie par des révolutions. Ça, c'est exactement ce qu'écrira Fénelon, toujours dans cette même lettre. Ça, c'est assez terrible, bien entendu, et ça pourrait lui être reproché. Mais attendez la moindre révolution, écrit-il. Cette puissance monstrueuse, poussée jusqu'à un excès trop violent, ne saurait durer. Elle n'a aucune ressource dans le cœur des peuples. Elle a lassé et irrité tous les corps de l'État. Elle contraint tous les membres de ce corps de soupirer après un changement. Et l'on pourrait presque se demander, finalement, si ce changement, M. de Fénelon, ne finirait pas par l'appeler de ses vœux.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Retour à Fénelon avec vous, Franck Ferrand.
Ce qu'il faut que je vous dise, c'est que Fénelon était sans doute aux yeux de beaucoup un peu trop proche d'une certaine Madame Guyon. Qui était-elle, cette Madame Guyon? Eh bien, Jeanne Guyon, nous dit Christian Petit-Fils, est la prophétesse qui le régentait, et elle vit les cieux ouverts. Elle se crut sur les marches du trône, instaurant le règne de la divine oraison et de l'enfant Jésus. Pour hâter cet avènement, elle fonda la confrérie secrète des Michelins, dont le général fut Fénelon, dit Saint Bon, et la supérieure, Madame Guyon, en personne, dite notre mère. Nous sommes là dans cette affaire du quiétisme. Qu'est-ce que c'est que le quiétisme? C'est très difficile à définir comme ça en quelques mots, mais disons que il s'agit d'une sorte de chemin de grâce très progressif qui doit conduire l'âme humaine en ce monde, et non pas dans l'autre monde, qui doit la conduire à une sorte d'idéal de sérénité, de tranquillité et de vie en communion permanente avec Dieu, comme si en quelque sorte l'être humain devait atteindre un idéal d'amour sur terre, en quelque sorte. En 1694, Fénelon est devenu suspect. Il a comme ennemi personnel Bossuet, le grand Bossuet, bien entendu, l'aigle de Meaux, qui sera le principal adversaire du quiétisme. Il doit se justifier de sa spiritualité devant un certain nombre d'autorités religieuses, et notamment devant Bossuet, bien entendu. L'année suivante, Madame Guyon est jugée tellement dérangeante, les idées qu'elle professe sont tellement facteurs de trouble, que finalement, elle est arrêtée. Et on va l'incarcérer à Vincennes. Et en 1697, Fénelon rédige l'explication des maximes des saints. Ça fait un véritable scandale. Fénelon, à ce moment-là, a pour ordre de se retirer dans son diocèse de Cambrai. Il perd son titre et sa pension de précepteur royal l'année suivante, et il sera carrément condamné par un bref pontifical, c'est-à-dire que Bossuet s'arrange pour faire entrer le pape dans ce débat qui, au départ, paraissait un débat franco-français. Fénelon va entamer à ce moment-là une correspondance épistolaire avec le duc de Bourgogne, tout jeune duc de Bourgogne, puisqu'à l'époque il n'a toujours que 17 ans. Il mélange dans cette correspondance les conseils politiques et militaires à, bien entendu, un certain nombre de conseils spirituels, avec toujours pour idée de continuer à former celui qui un jour adviendra et deviendra le bon roi, le roi chrétien. C'est dans ce contexte qu'en avril 1699, paraît à Paris, c'est une parution assez discrète du reste, ça paraît sans nom d'auteur, vous pouvez l'imaginer, chez la veuve d'un célèbre libraire, paraît le quatrième livre de l'Odyssée d'Homère ou les aventures de Télémaque, fils d'Ulysse. Voilà le titre complet de ce Télémaque. Et Bossuet va vite parler de cet ouvrage comme d'un ouvrage indigne non seulement d'un évêque, mais d'un prêtre et d'un chrétien. Vous voyez bien que les reproches qui sont adressés à Fénelon sont d'abord et avant tout des reproches liés au dogme. Bien sûr. Après être paru clandestinement en France, l'ouvrage sera enfin autorisé à être publié en 1717. 1717, c'est-à-dire 2 ans après la mort de Fénelon, puisque vous venez de voir qu'il est mort en janvier, le 7 janvier 1715. Malgré sa disgrâce, il continue de rester dans l'entourage de ceux qui forment le futur gouvernement, en quelque sorte, c'est-à-dire il reste le conseiller de l'ombre, le conseiller occulte du petit duc de Bourgogne. Il rédige pendant les dernières années de sa vie une abondante œuvre politique, toujours destinée au duc de Bourgogne lorsqu'il sera roi, d'une certaine manière, et l'on peut dire que le duc de Bourgogne profite peu à peu de cet enseignement et de cette conduite spirituelle de Fénelon. Il devient un prince tout à fait exemplaire. Alors, Évidemment, la principale source que nous avons pour en juger, c'est le duc de Saint-Simon. Et on ne peut pas dire que Saint-Simon soit un modèle d'objectivité. Mais tout de même, ce que nous raconte Saint-Simon laisse bien entendre que nous sommes en présence d'un personnage d'une très grande qualité. De cet abîme, nous dit Saint-Simon, sortit un prince affable, doux, humain, modéré, patient, modeste, pénitent, et autant et quelquefois au-delà de ce que son état pouvait comporter, humble et austère pour soi. Quel amour du bien, quel dépouillement de soi-même, quelle recherche, quel fruit, quelle pureté d'objet. Oserais-je le dire, quel reflet de la divinité dans cette âme candide, simple, forte, qui, autant qu'il leur est donné aussi bas, en avait conservé l'image. Bon, encore une fois, je pense que Saint-Simon va un peu loin et qu'il prête au duc de Bourgogne des qualités qu'il n'avait peut-être pas toujours au quotidien, mais il est certain que l'extraordinaire exemple de Fénelon, que ce magistère tellement doux, tellement lumineux, l'auront lui-même peu à peu adouci et illuminé. Hélas, en février 1712, ce duc de Bourgogne va mourir. Ça, c'est assez terrible parce que ce qui s'est passé, c'est qu'en 1711, le grand dauphin vient à mourir. Et à ce moment-là, tout l'entourage de Bourgogne se dit « Cette fois, c'est bon, cette fois nous aurons ce prince rêvé, ce prince chrétien pour succéder au grand roi. » Et non, puisque en 1712, donc, épidémie de rougeole à la cour, et le duc, la duchesse de Bourgogne d'ailleurs, et leur fils aîné vont mourir. Ce sera sans doute pour Fénelon une douleur terrible, et il les suivra, si je puis dire, dans la tombe, le 7 janvier 1715 même. Et vous savez que Louis XIV, en personne, aura finalement bénéficié de cet enseignement, si je puis dire, et même de la lettre de Fénelon, puisqu'on trouve des accents de cette lettre. D'abord dans la propre lettre qu'il adresse lui-même en 1712 à ses propres sujets, « Quoique mon amitié pour mes peuples ne soit pas moins vive que celle que j'ai pour mes propres enfants, dit-il, et que je n'ignore aucune des misères que la guerre fait subir à des sujets aussi fidèles, on croirait lire Fénelon lui-même. Et puis, au moment de mourir, on sait ce que Louis XIV conseillera à son successeur, à son arrière-petit-fils Louis XV, « Ne m'imitez pas dans le goût que j'ai eu pour la guerre, etc. » Bonjour Alexandre Maral. J'ai survolé la carrière et l'extraordinaire magistère de Fénelon. Avec vous, nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
C'est le troisième centenaire de la mort de Fénelon qui est au cœur de l'histoire cet après-midi. Et vous nous en parlez, Franck Ferrand, avec votre invité Alexandre Maral, conservateur en chef au château de Versailles.
Ce que j'aimerais que nos auditeurs comprennent bien, Alexandre Maral, c'est d'abord la très grande qualité de cet homme. Quelle douceur, quelle politesse, quelle pénétration, je crois que c'est ça le terme.
Quelle onction. Voilà. Une onction toute ecclésiastique. C'est un homme qui est né, comme vous l'avez dit, dans les hautes sphères de la noblesse française, de la vieille noblesse. Il est originaire d'une famille de Périgord. Son oncle est l'évêque de Sarlat et il est né au château de Fénelon, excusez du peu.
Il a reçu la meilleure éducation, il faut le dire, mais au-delà d'une éducation, il a reçu notamment de sa mère, semble-t-il, un excellent exemple.
Sa mère est très attentive à ses premiers pas et puis il a la chance de fréquenter aussi le séminaire de Saint-Sulpice qui est tenu alors par les sulpiciens et c'est là la meilleure formation sacerdotale en France à ce moment-là, dans les années 1670. Il est ordonné prêtre en 1677 et son directeur spirituel, c'est le grand Tronson, qui était un grand directeur, non seulement du séminaire, mais de quantité d'âmes dévotes de ce temps-là.
Alors, il était très raffiné, très recherché, ce qui évidemment va faire ce succès absolument incroyable que j'ai décrit tout à l'heure. Quand il arrive à la cour, il est tout de suite le chéri de ses dames, si je puis dire. Plus coquet qu'une femme, nous dit Saint-Simon, mais en solide, non à misère, dit-il. J'aime beaucoup cette formule, comme toujours avec Saint-Simon, un peu improvisée, mais en même temps tellement percutante.
Et il fascinait Saint-Simon. Saint-Simon dit dans un autre passage de ses mémoires, il semblait enchanté, on ne pouvait ni le quitter, ni s'en défendre, ni ne pas chercher à le retrouver. Il y a un côté aimant.
Magnétique,
voilà, c'est le terme.
Et alors j'aime beaucoup aussi ce que dit Saint-Simon quand il dit qu'il ouvrait le robinet exactement ce qu'il fallait en fonction du rang de la personne, de son intelligence, de sa disponibilité, comme s'il était capable de saisir systématiquement l'attente de la personne en face de lui et de lui donner exactement ce dont elle avait besoin.
Il était extrêmement affable, attentif, tant aux grands qu'aux petits, et très élégant, et un regard de feu fascinant.
Le signe de Cambrai, n'est-ce pas ?
Voilà, toute la noblesse de cet animal qui sont titres. Oui.
Alors c'est un abbé dans un premier temps. Il est, on pourrait dire d'ailleurs tout simplement un abbé de cour, même s'il n'en a certainement pas tous les défauts. Ça devient très vite un précepteur. Et quel précepteur, puisqu'on lui donne les deux principaux princes de France à élever. C'est quand même pas rien. Le duc de Bourgogne et le duc d'Anjou.
Puis le duc de Berry dans un premier temps.
Le troisième,
les trois petits enfants. Et cela, il le doit précisément à ses relations à la cour, qui se sont nouées au moment où il était au séminaire de Saint-Sulpice. C'est en l'occurrence les gendres de Colbert, le duc de Beauvilliers, le duc de Chevreuse, qui appartiennent à des grandes familles aussi de l'aristocratie, et qui vont l'introduire dans l'entourage royal et lui confier des charges, notamment parce que Beauvilliers devient gouverneur du duc de Bourgogne, et Beauvilliers va faire appel et va le faire nommer précepteur. Tous les deux vont s'occuper de la formation de celui que l'on pensait à l'époque comme futur roi.
Et oui, alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Louis XIV a assis une monarchie définitivement absolue. C'est-à-dire, François Bluche nous dirait libérée, d'autres nous diraient opprimante. Les deux sont sans doute vrais.
Fénelon est plutôt de ceux qui diraient opprimante.
Et il est évidemment dans une espèce de conception totale, tout à fait personnel et tout à fait sans limite du pouvoir. Bon, ça ne fait pas les affaires de tout le monde. Et à la cour, nombreux sont ceux qui souffrent en silence et qui, tout en admirant la grandeur du roi, aimeraient bien qu'un jour il puisse passer la main et que Dieu l'y aide d'une certaine manière. Alors, quand même, entre le roi et le duc de Bourgogne, il y a le grand dauphin, Monseigneur, qui n'est pas une lumière, il faut bien dire.
Monseigneur, mais qui est l'héritier naturel.
Qui est l'héritier officiel, hein, ça, bien sûr. Mais alors on se dit que si par miracle il pouvait arriver un malheur à Monseigneur, alors le duc de Bourgogne monterait sur le trône et ce serait l'avènement d'une sorte de nouveau Saint-Louis. C'est comme ça qu'ils vivent ça, tous ceux qui sont autour de lui, qui se pressent dans le sillage du jeune prince.
Là, tous leurs espoirs dans le duc de Bourgogne et les années avançant, c'est vraiment le duc de Bourgogne l'avenir.
Alors si l'on lit les lettres de Madame Palatine, on voit à peu près quels sont les caractères des trois petits-fils du roi. Son préféré, c'est le plus jeune, hein, le duc de Berry. Elle dit qu'il était charmant, joyeux, adorable. Bon, il mourra d'un accident, des suites d'un accident.
Plein d'humour.
Mais lui, on peut dire que c'est un fantôme de l'histoire, puisque le pauvre, il est mort trop tôt en 1714. Il n'a rien fait, il n'a rien été. Le deuxième, le cadet, c'est le duc d'Anjou. Lui qui était une sorte de personnage mystérieux, presque muet, qui va devenir roi d'Espagne.
Et qui rentre dans son rôle.
Quant à l'aîné, une nature complexe, à la fois d'une grande intelligence, d'une grande douceur et en même temps, semble-t-il, pas toujours d'une franchise à toute épreuve.
Très secret aussi. Ses enfants ont été élevés dans le modèle de Louis XIV, hein, il faut bien le dire. Et Louis XIV a cultivé l'art du secret. Alors chez Bourgogne, il y a aussi une très grande piété. Mais ça, il le doit essentiellement à Fénelon. Mais Fénelon a repéré chez lui cet appétit à la...
Quel âge a-t-il quand Fénelon commence à s'occuper de lui?
Il a 7 ans. 7 ans, 1789.
Ce qu'on appelle le passage aux hommes, en fait.
Oui, le moment où on lui constitue une maison, comme vous l'avez dit, avec le gouverneur, le précepteur, et toute une équipe pédagogique qui entoure évidemment ces deux hommes.
Alors nous avons vu quel genre d'abbé et quel genre de courtisan Monsieur de Fénelon pouvait être, quel précepteur était-il? Est-ce que c'était un bon enseignant?
Il avait des qualités pédagogiques indéniables, puisqu'il s'est fait estimer et aimer du duc de Bourgogne, qui n'a pas davantage échappé au magnétisme qu'exerçait Fénelon sur la cour. Et il a noué une relation très, très personnelle, donc concevant une pédagogie adaptée à son élève, pédagogie dont il nous reste des traces à travers certains écrits. Vous avez cité le Télémaque, qui est évidemment l'exemple le plus parlant, puisque Fénelon se dépeint sous les traits de mentor enseignant Ulysse, étant donc le duc de Bourgogne. Mais il y a d'autres...
Enseignant
à Télémaque, bien sûr. Et il y a d'autres écrits, les fables, les dialogues des morts. Et les fables, c'est très intéressant aussi. C'est un peu le principe de La Fontaine, que La Fontaine avait appliqué à l'usage de son père, du dauphin, puisque les fables de La Fontaine sont dédiées au dauphin fils de Louis XIV. De même, Fénelon a composé des fables, donc pour éduquer de manière ludique, amusante. Et ça a très bien marché. Le duc de Bourgogne a été un élève beaucoup plus docile, beaucoup plus réceptif que ne l'a été son père.
Oui, mais alors, ce qu'il faut dire, c'est que le père n'avait pas eu la chance d'avoir Monsieur de La Fontaine, lui, comme précepteur.
Non.
Il avait un affreux précepteur qui s'appelait Ardouin Périfix de Beaumont, qui était d'une violence.
Et Bossuet. Et Montausier. Voilà,
et Montausier.
Qui le battait, oui.
Mais qui utilisait
ne l'a jamais battu. Et donc, les méthodes ont changé, mais ça explique aussi pourquoi, sans doute, le duc de Bourgogne s'est montré beaucoup plus docile.
Et ça explique aussi peut-être pourquoi, alors là, c'est une hypothèse que j'émets, mais pourquoi Fénelon a été nommé. Car on dit dit toujours, ça c'est d'ailleurs terrible, c'est un peu comme le phénomène que je dénonce en ce moment à propos de François Ier, Louis XIV a nommé M. de Fénelon comme précepteur de ses petits-fils. Certes, c'est lui qui signe la nomination, mais celui qui a choisi le précepteur, on peut quand même imaginer...
C'est Beauvilliers. Que,
évidemment.
Oui, oui.
Et c'est le grand dauphin lui-même. C'est-à-dire que le grand dauphin voulait pour son fils quelqu'un qui soit un peu le contraire de ce qu'il avait eu lui, car il avait un affreux souvenir.
Ça a pu jouer aussi, bien sûr, oui, oui. Mais Beauvilliers a eu un rôle, puisqu'il est nommé gouverneur, donc c'est lui qui est chargé de proposer des noms pour la maison du prince. Et Beauvilliers avait lui-même 9 filles. Hein, et Fénelon avait déjà eu l'occasion de lui donner des conseils pour l'éducation de ses propres filles. Conseils qui ont été consignés, que Fénelon a publié dans un traité de l'éducation des filles. Et sûrement, Beauvilliers a apprécié ces méthodes au point donc qu'il a suggéré et proposé le nom de Fénelon.
Alors bien sûr, Fénelon profite de la position qui est la sienne pour essayer de former l'esprit du jeune prince à ses propres idées. Il va rédiger ses fameuses aventures de Télémaque. Alors ça, c'est très intéressant parce que ce Télémaque a été le principal ou l'un des principaux ouvrages de lecture de la jeunesse de France pendant 2 siècles. Jusqu'à la dernière guerre mondiale. En tout cas, à coup sûr, jusqu'à la première guerre mondiale, on se devait d'avoir lu Télémaque. On apprenait à lire dans Télémaque, on commentait Télémaque. Et puis, aujourd'hui, c'est le genre de bouquin qui est rangé dans le haut des bibliothèques que personne ne lit. Que s'est-il passé ? Pourquoi
que l'héritage de la mythologie n'est plus transmis. Et donc, pour apprécier, pour comprendre le Télémaque, il faut évidemment avoir en tête ce qui précède.
Qui sont les dieux, quels sont leurs liens de parenté, qui sont les héros d'Homère, etc.
Connaître Homère, il faut connaître la guerre de Troie et goûter ce...
Et puis le style est un style d'une pureté française extraordinaire. Et... C'est peut-être le sommet de la langue dans ce qu'elle peut avoir de classique. Et évidemment, ce goût classique, il a un peu disparu.
Attique aussi, il y a un atticisme chez Fénelon qui est remarquable.
Et c'est un paradoxe que ce qui aurait dû le rendre immortel est peut-être aujourd'hui son pire ennemi et la raison pour laquelle on n'étudie plus Fénelon qu'à titre de conservatoire en quelque sorte.
Il est tombé en désuétude, mais il n'est pas le seul. Bossuet est un immense écrivain aussi on ne lit plus Bossuet.
Avec des envolées nettement plus puissantes. Il y a quelque chose d'hugolien chez Bossuet et plutôt Chateaubriand, si je puis dire, pour faire des comparaisons romantiques, chez ce grand classique pourtant qu'est Fénelon. Alors, nous voyons quel est le précepteur, l'auteur. C'est peut-être, et d'abord, et avant tout, un homme politique dont nous parlons. Nous y venons en votre compagnie, Alexandre Maral, dans un instant.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Le 3e centenaire de la mort de Fénelon est au cœur de l'histoire cet après-midi et vous nous en parlez, Franck Ferrand, avec Alexandre Maral, conservateur en chef au château de Versailles.
Voilà le moment de l'émission que je redoutais un peu depuis le début, mais qui en même temps est le plus passionnant. Je le dis tout de suite à nos auditeurs, il faut que nous évoquions ce qu'est le quiétisme. Grande histoire, Alexandre Maral, personne n'est mieux placé que vous pour le faire. Alors, ce quiétisme, comment est-ce qu'on pourrait le définir ? Quelle est la démarche spirituelle qui se résume en ce mot ?
Le quiétisme vient du mot latin quies, repos.
La tranquillité.
C'est la tranquillité de l'âme qui ne se préoccupe plus que de sa relation à Dieu sans s'encombrer, si l'on peut dire, des questions de dogme, de morale aussi. On est dans un rapport direct qui passe par la prière, par l'oraison. C'est le titre d'ailleurs de cet écrit qui est considéré comme l'écrit de référence du quiétisme en France, le moyen court et très facile de faire oraison, un écrit de Madame Guyon, publié en 1685.
C'est qui cette Madame Guyon ? Est-ce qu'on peut dire sans aucune offense qu'elle est un peu une illuminée, disons ?
Ah oui, une mystico...
Elle est très mystique, allez, disons ça.
Très mystique, oui.
Voilà.
Et elle a envoûté Fénelon, qui est un esprit angoissé, à la recherche de la perfection, et qui a trouvé en Madame Guyon un réconfort évident.
On a même parlé de transfert, parce qu'elle fait des prophéties. D'ailleurs, oui. Elle lui avait prédit qu'un jour, il enseignerait au prince. Elle lui a dit ça.
Oui,
quatre ans avant sa nomination.
Et en tout cas, on a même parlé de transfert psychanalytique entre les deux. Il se confie, il s'en remet à elle. Il y a une sorte de relation très trouble, mais qui reste honnête. Hein. Je ne veux pas dire que ça l'a dévié. Et incontestablement, ils sont fusionnels tous les deux. Et au fond, on n'a peut-être pas assez mis en avant cet aspect de la question, mais derrière le quiétisme, on est à l'époque donc, de la révocation de l'édit de Nantes de 1685. Il y a cette passion des milieux catholiques de réintégrer les protestants considérés comme dissidents. Et il est est évident que cette réintégration se fera plus facilement si on efface les barrières dogmatiques, tout ce qui, dans le dogme, crée des fossés, des différences, des divergences.
Oui.
Et le quiétisme est pour ça formidable.
C'est une spiritualité ouverte.
C'est
si
une spiritualité et ce n'est pas un dogme.
Et d'ailleurs, certains, mais c'est une erreur, très probablement, mais certains ont apparenté le quiétisme à une forme de bouddhisme de l'Occident, d'une certaine manière.
Il y a de ça.
C'est-à-dire que c'est une sorte de démarche
d'ataraxie spirituelle.
Voilà, d'échange avec le monde, avec la nature, de très grande sérénité intérieure et extérieure à la fois. Et c'est cette relation d'amour permanente avec tout et avec tous. C'est ça l'idée. C'est intéressant ça, parce que ça nous rappelle le portrait que je lisais pour commencer cette émission, le portrait que Saint-Simon donnait de Fénelon. Hein.
Il correspond bien à ce profil.
Et alors pourquoi est-ce que ce quiétisme est tellement détesté à la cour en général et chez Bossuet en particulier ?
Alors il faut savoir qu'en 1687, le quiétisme est condamné par le pape, par Rome, en tant qu'hérésie. Donc très vite, le lien se fait entre les doctrines publiées par Madame Guyon et défendues par Fénelon et l'hérésie qui a été condamnée à Rome. Et Bossuet est un des premiers à faire ce lien. Madame de Maintenon aussi. On a trop souvent dit que Madame de Maintenon avait défendu Fénelon jusqu'à une date très avancée. Dès 1692, ça on le sait, elle interdit Madame Guyon de Saint-Cyr.
Ce que laissait entendre sa biographe Françoise Chandernagor, c'était que tout en condamnant officiellement, elle soutenait en sous-main.
On a des lettres très claires où elle défend à Madame Guyon de paraître à Saint-Cyr. Elle défend que ses écrits soient lus à Saint-Cyr et elle déplore les ravages faits par le quiétisme sur les demoiselles de Saint-Cyr dès 1692. Donc dès 1692, elle prend ses distances vis-à-vis de Madame Guyon, vis-à-vis de Fénelon ensuite, mais dans un second temps.
Et donc on a ces deux grands personnages de la cour, l'évêque de Meaux d'un côté, l'archevêque de Cambrai de l'autre, qui vont s'affronter sur cette question du quiétisme. Et c'est Bossuet qui l'emporte.
C'est Bossuet qui l'emporte. Donc des conférences sont organisées à Issy-les-Moulineaux, au séminaire donc des Sulpiciens. C'est des conférences privées qui opposent donc Fénelon, Bossuet, ainsi que Noailles, qui prend part à ses, et Tronçon, hein, l'ancien directeur de Fénelon à Saint-Sulpice. Des conférences qui aboutissent à un accord en 1695. Tout semble rentrer dans l'ordre. Et puis voilà que, comme vous l'avez dit, deux ans après, c'est la publication de l'explication des Maximes des Saints. Et c'est-à-dire que c'est très maladroit, ça, de la part de Fénelon. Alors, il a dit qu'il n'était pour rien.
Un homme aussi intelligent, qui est même, disons-le, je crois, de l'aveu unanime, l'un des plus intelligents de son siècle, a-t-il pu commettre une telle maladresse ? Vous ne pensez pas que c'était volontaire ?
C'est le problème des gens trop intelligents, c'est qu'ils s'imaginent que leurs idées vont triompher. Parce qu'elles sont, elles vont s'imposer d'elles-mêmes. Ils sont tellement persuadés de la cause qu'ils défendent qu'à leurs yeux, tout va s'aplanir. Et donc, il a maladroitement laissé publier l'explication des Maximes des Saints. Il a dit qu'il n'y était pour rien. C'est faux, on ne laisse pas publier un livre à son insu comme
surtout
ça.
À cette époque.
Surtout à cette époque-là. Et ce livre transforme la question quiétiste en débat public. C'est là où c'est très grave et ça devient dès lors une question politico-religieuse, voire politique tout court. Et là, Louis XIV a été très ferme. C'est la disgrâce.
Et alors la lettre ? La lettre adressée
alors,
au
la
roi.
Lettre, la lettre de 1693, hein, qui est donc bien antérieure, moi j'ai le sentiment que Fénelon l'a rédigée pour se défouler, mais qu'elle n'a jamais été communiquée, ni à Louis XIV évidemment, sinon il aurait été embastillé immédiatement.
Vous pensez que Louis XIV ne l'a pas lu ?
Non.
Oh, mais ça paraît pourtant, il y a des phrases quasi
mais
entières.
Elle est d'une violence rare. Je voudrais vous en lire un extrait
bien sûr, oui.
Que j'avais publié dans Le Roi, Soleil et Dieu. Je cite, hein, « La personne, sire, qui prend la liberté de vous écrire cette lettre, n'a aucun intérêt en ce monde, elle regarde Dieu en votre personne, bon, captatio benevolentiae, mais ensuite, en voilà assez, sire, pour reconnaître que vous avez passé votre vie entière en dehors du chemin de la vérité, de la justice, et par conséquent, hors de celui de l'évangile. Vous vous rendez compte la violence de ces propos ? Vous n'aimez point Dieu, vous ne le craignez même que d'une crainte d'esclave. C'est l'enfer et non pas Dieu que vous craignez. Votre religion ne consiste qu'en superstition, qu'en petites pratiques superficielles. Vous êtes comme les juifs, dont Dieu dit, pendant qu'il me nord des lèvres, leur cœur est loin de moi. Vous êtes scrupuleux sur des bagatelles et endurcis sur des maux terribles. Vous n'aimez que votre gloire et votre commodité. Vous rapportez tout à vous comme si vous étiez le Dieu de la terre et que tout le reste n'eût été créé que pour vous être sacrifié.
C'est incroyable d'oser s'adresser comme ça à Louis XIV.
D'être idolâtre de lui-même.
C'est invraisemblable. La France entière, lui dit-il, n'est plus qu'un grand hôpital désolé et sans provisions. Les magistrats sont avilis et épuisés. La noblesse, dont tout le bien est en décret, ne vit que de lettres d'État, autrement dit de vos subsides. Vous êtes réduit à la honteuse et déplorable extrémité ou de laisser la sédition impunie et de l'accroître par cette impunité, ou de faire massacrer avec inhumanité des peuples que vous mettez au désespoir.
Je pense que le roi n'a jamais lu.
Vous pensez que le roi n'a pas lu ?
Il a jeté ses idées sous forme de lettres ouvertes dont il avait le projet.
On aimerait tellement qu'il l'ait lu.
Et je pense même que Madame de Maintenon n'en a pas eu connaissance, parce qu'on dit qu'il lui aurait communiqué. Elle est écrite après la période où Madame de Maintenon se détache de lui.
Mais il y a dans un certain nombre de propos que Louis XIV tient à des ambassadeurs, dans la fameuse lettre du 12 juin 1709 que je lisais tout à l'heure, dans les propos qu'il tient sur son lit de mort devant les corps constitués, puis, vous êtes bien placé pour le savoir, à son propre successeur, il y a des échos incroyables de cette lettre.
Il y a des échos, c'est incontestable, mais dans l'air du temps, il y avait un discours allant vers la paix, un exercice du pouvoir plus équilibré, moins autoritaire, et ça, Louis XIV n'avait pas besoin de lire Fénelon pour en prendre la mesure, pour intégrer ce discours. Je pense que de la part de Fénelon, là, il y a une réaction de dépit incroyable. Il se sent marginalisé à cause de sa relation avec Madame Guyon. Et cette lettre est évidemment un défouloir pour lui.
En fait, c'est le trop-plein, nous dites-vous, de Bill qui ressort,
en quelque sorte. Oui,
et en même temps, il y a un véritable bréviaire là-dedans. Il y a comme une sorte de testament politique. Est-ce que le but ne serait pas, à travers l'adresse à Louis XIV, d'enfoncer le clou, si je puis dire, auprès de son petit-fils ?
Oui, bien sûr, vous avez raison. Il y a de la part de Fénelon un véritable programme politique. Et là, il va s'engager aussi très loin. Parce que vous mentionniez tout à l'heure le petit couvent, Fénelon comme général des Michelin. Ce petit groupe de dévots à la cour autour des gendres de Colbert, le duc de Beauvilliers, de Chevreuse, et d'autres personnalités dévotes étaient en fait, ça on le sait par une lettre de Madame Palatine, la belle-sœur de Louis XIV, une lettre qui date de 1698, c'était en fait une sorte de conspiration ou de lobby qui attendait des jours meilleurs, en l'occurrence l'avènement du duc de Bourgogne, et que ça allait très loin. Donc il y avait un programme politique, il y avait aussi un programme des listes de charges. Ils avaient prévu de renouveler le personnel politique, gouvernemental, et l'idée c'était de s'emparer des affaires.
Est-ce que vous conseilleriez à nos auditeurs la lecture des aventures de Télémaque aujourd'hui?
Oui, mais à condition de bien connaître, c'est vrai, la guerre de Troie, d'avoir lu au moins un résumé d'Homère, mais sinon, Télémaque...
Quelques familiarités de Virgile et d'Ovide, disons.
Voilà.
Mais il y a maintenant des éditions avec des notes qui permettent de savoir toujours de qui l'on parle.
Mais c'est une langue magnifique, il faut relire tous ces auteurs. Et
le lecteur, nous dit Jacques Lebrun dans la préface des Aventures de Télémaque, une des récentes éditions, le lecteur peut, avec le royal élève, apprendre la politique, l'économie, l'art de la guerre et de la diplomatie, celui du commerce et de l'agriculture, ainsi que les institutions, les mœurs et les arts de l'Antiquité, la mythologie et jusqu'à l'esthétique. C'est une sorte de cours complet.
Qui reflète la pédagogie de Fénelon auprès du duc de Bourgogne.
Eh bien écoutez, si nous voyons sur je ne sais quel site internet grimper les ventes de Télémaque dans les jours qui viennent, je me dirais que nous n'avons pas perdu notre temps, cher ami. Et je rappelle bien entendu vos deux derniers ouvrages avec Thierry Sarment. Nous en avions parlé d'ailleurs à Versailles récemment. Ce Louis XIV, l'univers du soleil, est un bel album pour le tricentenaire de la mort du grand roi. Et puis les derniers jours de Louis XIV. Ça, c'est paru en septembre dernier et on en reparlera forcément en septembre prochain, puisque le 1er septembre prochain, il y aura 300 ans que Louis XIV, lui aussi, est mort.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Christine. Elle souhaite connaître l'origine du shampoing.
Ça vient d'un mot sanscrit, figurez-vous. Ça vient du mot champna qui désignait les fleurs de la plante Michaelia champaca, une plante utilisée dans la confection d'huiles odorantes qui, en Inde autrefois, servait au massage des cheveux. C'est passé dans le vocabulaire hindi et shampoo veut dire masser en hindi. Alors, vous savez que depuis l'Antiquité, les femmes comme les hommes utilisaient toutes sortes de matières pour se laver les cheveux, de l'argile, des décoctions de plantes, du henné ou même du savon d'ailleurs pour nettoyer le cuir chevelu. Au Moyen-Âge, les femmes prennent l'habitude de mélanger de la graisse animale à des infusions de toutes ces plantes, justement. Et c'est beaucoup plus tard, c'est en 1814, qu'un Bengali s'appelle Sheikh Din Mohammad, qui est né à Patna, en Inde, il est arrivé en Angleterre quelques années plus tôt, et il ouvre à Brighton, qui est là un petit peu la porte de l'Angleterre vers l'exotisme, il ouvre un bain champouinant. Voilà, il emploie le terme. Vous voyez qu'il y a cette tradition indienne derrière. Les Britanniques viennent se détendre dans des bains turcs. Ils se font masser le cuir chevelu avec du champi, comme c'est l'usage chez les barbiers indiens. Alors très vite, les gens élégants, et je pense au roi Georges IV, à Guillaume IV également, vont mettre cette pratique à la mode. Et on va, vers le milieu du siècle, se mettre à vendre des bouteilles de shampoo. Ça s'écrit comme ça. S-H-A-E-M-P-2-O. Au départ, c'est donc un produit anglais, je devrais même dire londonien, issu de la tradition indienne. Le premier shampoing synthétique, il ne verra le jour que presque 100 ans plus tard, au début des années 1930. Et puis vous savez que c'est le patron de L'Oréal, Eugène Schuller, de mémoire compliquée, qui en 1931 va créer le premier shampoing à base de matière synthétique. Ça s'appelait le Platinozel. C'était un shampoing en poudre réservé aux coiffeurs, dont la formule laissait les cheveux, disait la publicité, propre, brillant et soyeux. Depuis le milieu des années 30, le shampoing n'a évidemment plus aucun secret pour vous.